En fait, on a travaillé avec les étudiants et étudiantes de Master 1, vulnérabilité, sur des textes sociologie cognitive et morale de l'addiction, addiction et éthique de la belle vie. Donc il y a ainsi deux textes qui renvoient à la question de l'addiction aux drogues. Et il y avait donc deux questions qui avaient émergé. Alors je me demandais si ces questions, là vous pouviez, je pense à votre question à vous, ainsi que votre question, une question qui renvoie à l'addiction comme maladie chronique, entre guillemets, et une autre question qui renvoie plutôt à la question du plaisir, justement, et peut-être de ces variations sociales selon les hommes, les femmes, les milieux sociaux. Bon, voilà. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prendre la parole, formuler vos questions, et ensuite, ce que je vous propose, c'est soit d'y répondre maintenant, soit on fait la pause, et puis vos réponses interviendront après la pause. On va peut-être plutôt faire comme ça. Peut-être que vous pouvez formuler les deux questions.
Mais c'est le temps de réfléchir.
Voilà. Donc peut-être vous, pour commencer. Voilà.
Du coup, dans un certain nombre de textes, on a l'impression que vous appréhendez les addictions comme des maladies chroniques. Et on s'est posé la question en fait, de la différence entre la maladie chronique au sens premier du terme et l'addiction, si vous éludez pas un peu la question de la responsabilité, sans vouloir culpabiliser les personnes qui sont atteintes d'addiction. Mais dans les faits, je pense que ça peut être, oui, je veux dire, insultant pour une personne qui a une maladie chronique de comparer une addiction à une maladie chronique.
Et puis donc la deuxième question qui renvoyait plus aux variations sociales de l'accès au plaisir. Je crois que c'est vous, non ? Non ? Bon, alors ça a été une discussion en cours. Je vais peut-être essayer donc de la reformuler. Ça renvoie aussi à la question de la vie belle, hein, et de la différence entre vie belle et bonne vie. La vie belle telle que vous l'entendez, c'est-à-dire cette aptitude au plaisir, au désir qu'il y aurait dans chaque individu.
Et au risque qui peut y être.
Et au risque également. N'existe-t-il pas, par exemple, une tendance à l'hédonisme, hein, si on reprend le texte de Luc Boltanski par rapport à la notion de culture somatique et à ses variations selon les milieux sociaux. Il y a des rapports au corps différenciés, c'est ce qu'il souligne, hein, notamment un rapport plus, alors ça peut se discuter, un rapport plus instrumental à son propre corps qu'auraient les catégories populaires versus un rapport hédoniste et sensualiste qu'auraient les catégories sociales plus élevées. On s'est interrogé voilà, sur ces différenciations sociales. Qu'est-ce que vous en... Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis il y a peut-être deux thématiques que nous aimerions aussi aborder dans le cadre de ce séminaire. D'une part, c'est autour de cet ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme addictif » et qui là étend peut-être cette question de l'éthique de la dépendance à l'ensemble de la société en la reliant avec la question du capitalisme. Et peut-être aussi une autre thématique, ça sera celle du regard cinématographique. Hein. À la fois votre regard cinématographique en tant que chercheur et l'idée d'un regard cinématographique qui serait celui de chaque individu. Hein, il y aurait une sensibilité ou un regard cinématographique dans votre conception de l'individu. Et peut-être une ouverture sur votre projet d'ouvrage dont vous m'avez parlé lorsque nous nous sommes rencontrés.
Bon, elle est là, la personne qui a posé la question sur la responsabilité, parce que sinon je peux répondre à la vôtre avant.
Oui, peut-être qu'on va commencer par la seconde question.
Voilà, sur belle vie, bonne vie. Donc je continue à parler là comme ça. Oui. expliquer un peu plus oui. cette idée des données en rapport comportemental à son propre corps.
Oui, donc la question, c'était par rapport à la question du plaisir et du rapport au plaisir qui serait une composante finalement de l'individu, qui serait commune à tous les individus, et en même temps des travaux sociologiques qui soulignent peut-être des usages sociaux du corps différents selon les milieux sociaux, avec, voilà, avec parfois un rapport hédoniste à son propre corps, plus ou moins présent selon les catégories de population, donc, autour des variations sociales.
Et c'est Boltanski qui soutient ça. Dans quoi ?
Dans son article sur les usages sociaux du corps.
Et c'est un très vieil article.
Il a changé après.
Après,
voilà. C'est un peu...
Très bourdieusien.
Voilà, il a divorcé un peu de
Pierre Bourdieu. C'est très bourdieusien, oui. Parce qu'après, il est revenu à la sociologie plus classique, mais il n'a pas réintroduit ça. Non, je pense que sûrement on doit... Enfin, j'ai pas d'objection de principe au fait qu'on ait des rapports comportementaux à son propre corps différents suivant les milieux sociaux. Mais l'hédonisme, on peut le rattacher à des milieux sociaux, on peut le rattacher à des modes, on peut le rattacher aussi à des philosophies personnelles, à des religions. Des religions qui sont des univers religieux qui sont réputés faire une plus grande place au plaisir que d'autres, par exemple. Voilà. Je pense que l'univers religieux de Kant ne faisait pas une très grande place au plaisir. On l'appelle puritain par définition parce que précisément il exclut les plaisirs. Donc, oui. Mais donc qu'il y ait des différenciations sociales, des différenciations religieuses, des différenciations historiques et tout ça du rapport au plaisir, du rapport au corps, j'en dis ce qu'on vient pas. En fait, je me rends compte que moi je suis pas dans l'idée de trouver des distinctions entre les groupes sociaux et les groupes religieux. Tout ça existe en sociologie pour tel ou tel type de comportement. Tout ça existe en sociologie, c'est très bien. Si ça n'existait pas, il faudrait le faire. Et bon, sauf qu'ensuite, on peut discuter telle ou telle approche, par exemple celle de Bourdieu ou d'autres, la trouver plus ou moins juste. Par exemple, on peut discuter, on peut faire beaucoup d'objections, par exemple, à la théorie de la distinction de Bourdieu, parce qu'on trouvera beaucoup de cas de gens issus du milieu d'ouvriers qui ont des relations, des rapports plus fins au plaisir que ce qu'il décrit dans son livre. Et c'est là aussi que jouent d'autres influences, qui sont des influences religieuses, personnelles, etc. Si vous voulez, en gros, moi, par rapport à ça, ce que je pense, enfin, la notion d'habitus telle que l'a développée Bourdieu, elle me semble correspondre à une large part des comportements humains, c'est-à-dire qu'on ne se conduit pas de la même façon, en gros, lorsqu'on sort d'un milieu ouvrier, qu'on vient des banlieues, ou qu'on a été élevé avec une cuillère dorée dans sa bouche, etc. Donc c'est, en gros, c'est vrai, et c'est pas ça que je m'intéresse. Je dirais, c'est pas ce sur quoi j'ai cherché. J'ai pas quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. J'ai pas quelque chose de particulier. Ce à quoi je me suis intéressé, c'est comment, parce que ça correspond à un projet de sociologie morale. Comment on acquiert un habitus ? Comment on acquiert un habitus personnel ? Et c'est une question. C'est une question d'histoire personnelle, c'est-à-dire que un habitus personnel, ça s'acquiert au travers d'une éducation, d'une origine, et puis ça répond aussi un petit peu, je vais y venir après, à l'autre question, une série de choix qu'on a pu faire soi-même. Il y a eu des choix. Alors la question de savoir jusqu'à quel point ces choix étaient libres ou déterminés, elle est largement ouverte. La question aussi de savoir jusqu'à quel point ces choix impliquent des responsabilités, c'est aussi une question dont on peut discuter. Mais si vous voulez, un exemple que je prends souvent, c'est celui d'un joueur de football ou d'un mathématicien. Un joueur de football, si vous voulez, c'est quelqu'un un bon joueur de football pendant 15 ans ou 20 ans, il a acquis sur le terrain une façon d'être avec son corps, d'esquiver, de dribbler, de feinter, etc. Ça n'est pas dans tous ses comportements, mais il a une façon de voir les situations avec son corps de joueur de football. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui a appris à grouper, dégrouper les nombres, sans même avoir besoin de se dire quels sont ces nombres. Il voit tout de suite des rapports entre les groupes de nombres que moi je ne vois pas, parce que je ne suis pas un mathématicien. Et donc il peut le voir dans toutes sortes de situations. Il a un habitus. Il n'est pas né, mais il était nul en maths quand il est né. Et il était. Alors, il était peut-être surdoué, il a peut-être appris les mathématiques. Je pense qu'on acquiert des habitudes professionnelles. Quand on est médecin, il y a une façon de. On apprend à parler aux gens, on apprend à regarder le corps. Voilà. Je pense qu'on a des habitudes de vie personnelle. Ça, c'est très important. Et pour moi, l'addiction, c'est clairement un habitus de vie personnelle. C'est quelque chose. Une chose qui, comme moi, quand j'ai fait mes enquêtes sur l'addiction, à quelques exceptions près, les gens m'ont dit qu'ils n'avaient jamais choisi l'addiction. Ils ont choisi la drogue à un certain moment. Ils en ont pris. Alors, voir dans quelles conditions on consomme des drogues très dangereuses. Souvent, c'est parce qu'on en a consommé des moins dangereuses avant. C'est-à-dire qu'on est déjà un peu éméché, des choses comme ça. Il y a des situations qui, parce qu'on est dans des relations de mimétisme, des relations d'influence, des tas de choses comme ça qui jouent. Mais sur le moment, on ne choisit pas de devenir addict. Personne ne veut devenir junkie, personne ne veut devenir alcoolo. Ou alors, c'est justement parce qu'on a vécu des expériences terribles et qu'on est désespéré, qu'on va se noyer dans l'alcool ou dans l'héroïne. Voilà, donc c'est vraiment cette idée d'habitus personnel. Et alors, chaque fois qu'on s'engage un petit peu plus dans ce parcours personnel, dans ce genre, dans un habitus qui est avec les drogues, mais qui peut être avec n'importe quoi, on le fait avec des choix. Quand j'ai fait mon enquête sur les usages de drogues, c'était surtout alcool, héroïne et crack, c'est-à-dire cocaïne fumée. En fait, ça portait sur trois choses. C'est comment on est rentré dans un processus addictif, comment on a essayé d'en sortir et pourquoi, et puis ce qu'on pensait des politiques publiques, la façon dont on les voyait, la façon dont soi-même on s'était senti bien ou mal dans ces politiques publiques. Et donc sur la première question, c'est une chose qui était claire, c'est que personne n'avait, je vous dis, sauf à quelques... Les gens qui disaient, moi je sais que je savais d'emblée que j'avais rendez-vous avec ce produit-là, mais ils le disent. Mais sinon, la plupart du temps, les gens disent qu'ils n'ont pas choisi d'être... Ils ont choisi la drogue, mais ils n'ont pas choisi de devenir drogués. Quant à choisir la drogue, ils répondent simplement en disant... par exemple, quelqu'un disait, la première fois que j'en ai pris, on ne m'a pas obligé à le faire. Hein, et après, on ne me disait pas, tu n'iras pas te coucher si tu n'as pas pris ta drogue. C'est-à-dire que c'est toujours... Il y a toujours une question de décision. Donc, aucun n'éludait sa responsabilité au sens qu'il n'aurait pas, il aurait pas choisi, il aurait été le jouet des événements. Les gens que je voyais ne raisonnaient pas comme ça, ne présentaient pas les choses comme ça. Et ce qu'on peut dire, en fait, des gens qui sont dans son processus addictif, on peut le dire de toute une série d'agents de la société, de toute une série d'agents de la société qui ne sont, sont pas dans des processus addictifs, c'est-à-dire au sens ou dans des addictions. Ils n'ont pas besoin d'aller voir un psychiatre ou d'aller dans un groupe de narcotiques anonymes parce qu'ils sont mal, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre, parce que bon, etc. Ils n'ont pas besoin de ça, au contraire, ils vivent parfois même très bien. Mais ils ont aussi acquis un habitus qui peut les amener à faire toutes sortes de choses. Comme par exemple, parce qu'ils travaillent dans une banque d'affaires, gagner le maximum d'argent avec tous les moyens légaux disponibles, quelquefois quelques moyens illégaux, comme dans le cas de Jérôme Kerviel, dont je parle un peu, mais avec tous les moyens disponibles. Et sans se poser de questions sur les conséquences. Alors pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, ils ont fait des études. On le voit bien, c'est ça aussi le cinéma qui est intéressant. On le voit bien là, et c'est un petit génie. Dans un film dont je parle beaucoup, c'est Martin Cole, est un petit génie. C'est un petit génie de la physique. Et puis, il est allé travailler dans la banque parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent dans la banque que l'université. Et puis voilà, donc il a fait ce choix-là. Il aurait pu rester à l'université. Des tas de gens ne vont pas dans les banques. Ils préfèrent rester à l'université, bien qu'ils soient aussi des petits génies en physique. Mais certains vont dans les banques. Alors pourquoi l'a-t-il fait lui ? En tout cas, il ne l'a pas fait pour nuire à l'humanité, pour créer la crise des subprimes, etc. Il ne l'a pas fait pour ça. Il l'a fait parce qu'il voulait gagner. Ça s'est présenté. Voilà. Et donc, mais... rentrant dans cette logique-là, il va acquérir des façons de raisonner. Je pense à un autre domaine qui m'intéresse aussi beaucoup actuellement. Je pense à tous les gens qui font aujourd'hui des bases de données, qui utilisent des outils de connexion entre les bases de données, les outils d'intelligence artificielle qui gèrent ce qu'on appelle des big data, c'est-à-dire des grands nombres de données qui sont collectés par toutes sortes de moyens, en particulier par les cookies que vous engrangez quand vous visitez un site internet, mais aussi par toutes les informations que vous laissez chaque fois que vous inscrivez sur le site, sans parler de Facebook, qui est devenu une sorte d'aspirateur incroyable de données personnelles qu'il vend pour la publicité ciblée, c'est devenu une véritable industrie, et qui lui permet d'ailleurs de faire toute une sociologie. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un an, un numéro entier de la revue française de sociologie sur les big data. Et la préface est très intéressante, parce qu'ils disent Facebook produit des catégories sociologiques qui font fonctionner dans la publicité, qui font fonctionner par exemple dans les choix des fils d'actualité que les gens reçoivent tous les jours. Quand ils vont sur Facebook, ils reçoivent un fil d'actualité. Ils pensent que c'est le fil d'actualité de n'importe qui. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce fil d'actualité est fait en fonction de leur propre histoire de navigation et de leurs propres données personnelles. Et donc, on leur renvoie sur Facebook ce qu'on s'attend à ce qu'eux-mêmes attendent. En fait, c'est un cercle. Hein. Bon. Donc Facebook, les cookies, les inscriptions sur les sites. Il y a, pour traiter ces données, pour concevoir les outils pour les traiter, il y a de plus en plus de gens qui travaillent. Et des gens, moi j'en connais certains, c'est des gens qui sont bien formés en informatique, c'est des gens qui veulent simplement gagner leur vie. Mais donc voilà, ils rentrent dans des logiques qui les dépasse d'une certaine façon. Là, ça les dépasse socialement, c'est-à-dire que les gens qui fabriquent les systèmes qui vont aboutir à une surveillance, à la possibilité d'une surveillance de chaque individu par les moyens numériques, ne visent pas du tout cette fin-là. Ils visent à gagner leur vie, ils savent faire des choses, ils savent traiter des bases de données, ils savent les mettre en connexion, etc. Mais ils acquièrent des habitus dans ce genre de métier, comme on en acquiert en mathématiques, comme on en acquiert en football, en musique, etc. Voilà ce qui fait... Pour moi, c'est ça le modèle de la société. Le modèle de la société, c'est des gens qui sont... Avec des choix à certains moments. Je vais répondre à la question. Avec des choix que certains ont fait et que d'autres n'auraient pas fait, mais qui se sont engagés dans des pratiques qui vont les rendre heureux. C'est pour ça, bon, c'est pour ça que je vous avez parlé belle vie, bonne vie. Bonne vie, j'essaye de distinguer la chose, parce que la bonne vie des philosophes, c'est une vie rationnelle où vous ne vous laissez pas tenter par les choses qui sont nuisibles ou qui sont pas complètement clean moralement, etc. La belle vie, c'est prendre quelquefois des risques. C'est quelque chose. Puis, difficile de dire à un adolescent de ne s'intéresser qu'à la bonne vie et pas à la belle vie. Beaucoup de gens, sinon tous, ont dans leur vie des moments où ils passent près de l'extrême. Et donc, c'est des vies où on peut prendre des risques, etc. Bon, mais voilà. Il y en a qui font des choix dans un sens, il y en a qui font des choix dans l'autre, il y en a qui sont prédisposés socialement, peut-être génétiquement, je ne sais pas, à faire des choix plus risqués que d'autres, ça c'est certain. Il y a des goûts, il y a des gens qui aiment. Et c'est comme ça que se forment les habitudes personnelles, et ça fait une société. Et c'est aussi extrêmement, extrêmement dur à bouger. Vous imaginez que... je pense à... un autre exemple, alors c'est l'exemple dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, c'est le système de crédit social en Chine, dont je parle peut-être un peu dans ce livre, dont je parle surtout dans celui qui va paraître, là, qui s'appelle Éloge des communs. Bon, pour que ça marche, c'est-à-dire c'est l'idée de collecter, alors c'est pas encore un système centralisé, mais c'est un système qui marche. Qui marche pour les municipalités, qui marche pour les assurances. Il y a un troisième domaine, mais il n'y a pas encore un panoptique orwellien complet, mais c'est un système qui collecte toutes les données, y compris les données issues de la reconnaissance faciale, pour faire des profils individuels à partir duquel on peut distribuer des avantages ou des punitions, hein, c'est-à-dire comme par exemple l'accès à certains hôpitaux, à certains trains, et puis l'interdiction de d'autres, à l'université, pas d'autres, etc. C'est un système extrêmement puissant. Mais il y a des milliers ou des centaines de milliers de gens qui travaillent à fabriquer ça. Et ils ont l'habitude qui convient. Quand vous allez bouger ça, vous allez... Vous voyez, c'est dur, ça. C'est la mise en place de tout ça. Comment bouger tout ça? Alors, il se trouve que les critères sur lesquels on juge les gens en Chine, c'est les critères du Parti communiste, c'est ceux de la dictature. Mais ce que beaucoup d'observateurs observent aujourd'hui, c'est que les moyens pour mettre en place ce genre de surveillance existent aujourd'hui dans les démocraties où il y a des libertés qui sont reconnues. Il y a des organismes comme la CNIL en France, le règlement européen de la protection des données qui mettent des garde-fous, qui sont généralement en retard par rapport à ce que... Voilà. Je dis ça parce qu'il faut voir que la société, c'est une société dans laquelle les gens font leur itinéraire. C'est bien une question d'itinéraire et fabriquent des habitudes avec des conséquences bonnes ou mauvaises pour eux et bonnes ou mauvaises pour la collectivité. Ils le font généralement parce qu'ils cherchent des rewards. Ils sont motivés, ils cherchent des récompenses. Des quelquefois, ils n'ont pas le choix non plus. Hein. Ils prennent des boulots parce que c'est tout ce qu'ils ont trouvé sur le marché. Mais souvent, pour les boulots les plus attractifs, ils sont motivés. Ils sont motivés, ça leur apporte un plaisir, une récompense. Et ils font ça. Voilà. C'est pas la question de la différenciation sociale. Bien sûr, elle existe. Bien sûr, elle existe et elle est importante. Mais je pense qu'on aurait tort de réduire la sociologie à l'étude de la différenciation sociale. Il faut avoir une vision dynamique de la société. La société, c'est des millions d'itinéraires personnels qui se font dans certaines conditions qui se fabriquent. Alors, je parlais avec votre collègue juste avant, à propos, par exemple, je reprenais une idée qui n'est pas de moi, mais quand on détaille les choses, plus on détaille les choses sur un itinéraire, et plus c'est suffisant, on voit bien qu'Evian fait ça, fait ça, fait ça, fait ça, à la fin il fait ça, voilà. Mais plus on s'éloigne, on voit que rien n'était nécessaire. C'est, si vous avez quelqu'un qui sort d'un milieu pauvre, qui a fait des études d'informatique ou n'importe quoi, on n'a aucune certitude qu'il sera spéculateur en bourse, héroïnomane, cocaïnomane, souvent spéculateur de bourse et cocaïnomane, ça marche ensemble. Hein. Aujourd'hui, ça, on le sait par les enquêtes et par le cinéma. Voilà. On a aucune certitude. Et ça m'amène à la question sur... si l'addiction est une maladie... Alors, l'addiction est-elle une maladie chronique comme le diabète? Non, c'est pas pareil. D'ailleurs, l'addiction à la cocaïne et l'addiction à l'héroïne, c'est pas pareil. Bien que souvent... en plus, héroïne, cocaïne, ça fait... La cocaïne, ça marche, ça rentre souvent dans des polyaddictions, mais il n'y a pas forcément l'héroïne. Mais dans les polyaddictions à la cocaïne, il y a souvent l'alcool, et puis les amphétamines, et puis tous les produits qui vont aujourd'hui avec, et Dieu sait s'il y en a qui apparaissent. Ou des, voilà. Donc, les neuropsychiatres peuvent décrire les mécanismes d'une addiction à l'héroïne, à la cocaïne, c'est pas pareil. Donc pourtant, dans les deux cas, c'est bien une maladie chronique. Donc on n'a aucune raison de penser que et en plus, dans le cas de l'addiction à l'héroïne, on connaît, on n'est même pas vraiment sûr d'avoir un marqueur biologique, tandis qu'avec le diabète, on a un marqueur biologique qui est le défaut de production d'insuline, etc. Voilà. Et les chercheurs en neurosciences de l'addiction, ils sont toujours à la recherche justement de marqueurs biologiques. Bon, ils pensent par exemple que l'image du cerveau, l'imagerie du cerveau pourrait être un marqueur biologique, mais il n'y a pas d'accord là-dessus. Vous voyez, donc c'est très différent. Alors après, pour le diabète, on pourrait dire qu'il y a des diabètes, il y a différents diabètes. Il y a des diabètes qu'on a acquis et des diabètes qu'on a en naissant. Hein. Alors on pourrait dire qu'on est plus responsable du diabète qu'on a acquis. Si on avait mangé moins de sucre, moins de graisse, etc., probablement on n'aurait pas eu le diabète de type B. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça, hein. Voilà. Donc, est-ce que tout ça... Donc, dire que l'addiction, qu'elle est une maladie chronique, est-ce que ça élude la question de la responsabilité? Clairement, chez les gens que j'ai rencontrés, quand je faisais des enquêtes là-dessus, sur ce qui est de l'addiction aux drogues, c'était bien de leur responsabilité qu'il était question. Voilà, de leur responsabilité dans ce qui allait mal pour eux, dans ce qui allait mal autour d'eux. Donc ils ne l'éludaient pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le fait de les désigner comme responsables. Bon, la société aime bien trouver des responsables, ça c'est certain. Alors après, ce qu'on peut reprocher à l'enquête sur la responsabilité, c'est qu'elle soit injuste, qu'elle soit inégalitaire, c'est-à-dire qu'une chose que disent souvent les enquêtés, c'est que les addicts, les alcooliques, etc., sont montrés du doigt, alors qu'ils pensent, eux, qu'ils se nuisent surtout à eux-mêmes, alors que d'autres gens ont des activités extrêmement nocives pour la société sans être montrés du doigt. Donc voilà, qu'est-ce qu'on cherche autour de la question de la responsabilité? Je ne sais pas, parce que là, après, il y a des questions très... Quand on est en face de quelqu'un qui est... Bon, quelqu'un qui est alcoolique, lui dire « t'es responsable de ta maladie », c'est vraiment la dernière chose à faire. Hein. Et aucun soignant ne fera jamais ça. C'est violent. Et puis même, je ne sais pas si on le pense. Je ne sais pas si vous... Un adolescent lui dire tiens, si tu prends des produits à la fête où tu vas aller, ben tu seras responsable. Faut pas lui dire ça, à mon avis, il faut lui dire
Je veux dire, prends rien. Si tu prends, fais très attention. Vérifie d'abord d'où viennent les produits. Dans les fêtes, dans les soirées festives, il y a quelquefois des associations qui renseignent. Si tu peux ne rien prendre, ne prends rien. Voilà. Mais pas, si tu en prends, tu seras responsable. Quel est l'intérêt de lui dire ça? Et si après il en a pris et qu'il commence à être mal parce qu'il en prend trop, quelqu'un qui se laisse prendre aux jeux vidéo lui dit, si tu prends des... Si tu vas... Alors, si, là, les jeux vidéo, on peut interdire. On peut interdire les jeux vidéo. Jusqu'à un certain point. Bon, avec les écrans, c'est assez simple. Hein, je pense qu'il y a des soignants qui pensent ça aussi, que exclure les écrans de la socialisation des enfants, c'est vraiment salutaire aujourd'hui. Hein. Quand on a des enfants, les mettre à l'abri des écrans, hein, que ça soit la télé, non pas qu'ils ne peuvent pas voir des films, ils peuvent voir des films qu'on choisit ou des documentaires, des choses comme ça, mais les Game Boy, les smartphones, etc., c'est une intrusion incroyable. Et puis tout le recul qu'on a là-dessus, qu'on commence à avoir là-dessus, c'est que ça a des effets. Quand il y en a trop, bon, le premier effet, c'est que quand on est sur son jeu, on ne lit pas. On sait en sociologie de l'éducation que si on ne lit pas, on ne sera pas bon élève. Hein. Ça marche ensemble. Hein. En général, quand on est bon élève, Donc ça, c'est le minimum. Mais après, mais vous pouvez me contester. Mais voilà. Donc, écarter les enfants des... Moi, je pense ça. Écarter les enfants autant que possible des écrans, des smartphones, des tablettes, etc., c'est salutaire. Ouais, je le recommande voilà, je suis très normatif là-dessus. Bon, mais en tout cas, leur dire, ah, t'es responsable, tu choisis, tu regardes la télé ou tu la regardes pas, c'est idiot, ça, c'est... Bon, lui interdire, quand on lui a déjà autorisé au moment où on était très content qu'il regarde la télé parce qu'on avait autre chose à faire, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc voilà, c'est toutes les questions qui se posent autour des questions. Donc voilà, est-ce que je réponds à la question de la responsabilité, éluder la responsabilité?
J'ai probablement très mal posé ma question, mais c'est vraiment une question de terminologie qui me pose problème. C'est pour moi, le terme de maladie chronique, il est déjà pris. C'est une maladie, l'addiction. Ça, j'en suis connu, hein, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on peut l'appeler maladie chronique? Pour moi, il faudrait trouver un autre mot, tout simplement. C'est une maladie, mais est-ce qu'elle peut être chronique? Pour moi, les maladies chroniques, c'est des maladies comme, j'en sais rien, moi, tout ce qui est auto-immune, les maladies auto-immunes. Et ce genre de maladie, c'est quand je posais la question de la responsabilité, je ne dis pas « Ah, c'est affreux, ils méritent leur malheur », ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais le fait est qu'il y a quand même un acte à la base.
Bon, je suis d'accord avec vous à ce moment-là, parce que, en fait, ce n'est pas moi qui utilise le terme de maladie chronique, mais c'est des addictologues qui disent « Mais avec des précautions, malgré tout, c'est une sorte de maladie chronique, ça s'apparente aux maladies chroniques. » Parce que ce n'est pas pareil qu'une maladie auto-immune ou... ou un diabète, clairement. On est d'accord.
Alors, il reste très peu de temps. Hein. Il reste exactement 7 minutes. Et donc, Bastien, ici présent, avait préparé une question qui renvoie un peu à l'ouvrage « Le capitalisme addictif ». Hein ?
Oui.
Bastien ?
À moi la parole.
Oui.
Là, c'était plus sur la notion d'aliénation. Comme tout à l'heure, vous avez parlé d'habitus liés à un métier, liés à une manière de consommer. En fait, la question que je me posais, c'était quelle dimension pourrait-on accorder à l'aliénation à partir de vos travaux, notamment le capitalisme addictif, même si je sais que vous remettez en cause la notion d'aliénation. Mais si on prend une dimension un peu plus marxisante, on va dire, la compréhension contemporaine du capitalisme, on remarque que l'aliénation a une dimension importante dans les rapports interindividuels, que ce soit par rapport à la production, l'ouvrier dépossédé de son outil de production, mais aussi dans les actions comme... qui fait individuellement, comme peut le suggérer de manière beaucoup plus contemporaine Hartmut Rosa, par le concept de modernité tardive et des différents types d'accélération, qui sont l'accélération sociale, l'accélération technique, l'accélération des rythmes de vie, qui provoquent, eux, en fait, de fait, des changements sociaux. Donc, je ferme la parenthèse sur l'aliénation. Et du coup, c'était de savoir si la dépendance peut faire aussi écho si la dépendance peut faire aussi écho dans le sens où il y aurait une forme de dépossession de soi dans sa maîtrise de son corps et aussi ses actes qu'on pourrait qualifier d'actes addicts, quoi. Par rapport à l'objet de dépendance qui immobiliserait en fait le sujet, à savoir l'individu, en rendant compte d'une aliénation, mais qui varie du niveau de conscience, qui devient plus ou moins palpable. Je ne sais pas si j'étais clair.
Très clair.
J'ai mis plein d'idées à la chaîne.
Merci.
C'est bon.
Merci de la question. En fait, au départ, effectivement, résistant à la notion d'aliénation, parce que ça avait servi à un moment à catégoriser l'état de conscience des classes populaires qui étaient aliénées, etc. Donc c'est ça que je critiquais dans la notion d'aliénation. Bon, après, si on regarde chez Marx, c'est l'idée du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire qu'on traite la marchandise comme l'allié maintenant, c'est ça?
Oui,
d'accord.
Moi, je voyais plus ça
par
le prisme de la production que de la marchandise.
D'accord, mais chez Marx, c'est quand même ça, c'est le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire qu'on traite la marchandise comme un dieu, en quelque sorte, hein, ça fait comme un fétiche. Ce qui n'est pas... on peut rendre compte de la consommation comme ça, mais c'est pas le tout. La dépossession de soi, après, bon, on peut discuter de ça, mais ça rend bien compte, effectivement, je dirais même... prosaïquement de ce qui se passe lorsque on fréquente Facebook de façon régulière, c'est-à-dire que on y va, on est soi-même un livre ouvert, hein, et avec l'illusion qu'on est sur une agora. C'est faux, hein. Maintenant il commence à y avoir de la littérature, il y a un livre qui est traduit en anglais sur algorithme, big data, d'une auteure qui s'appelle Cathy O'Neill, qui décrit l'usage des big data par les réseaux numériques, mais qui montre en particulier comment les républicains ont gagné les élections présidentielles. En intervenant massivement, c'est-à-dire avec des robots, des faux sites, etc., sur les cibles. C'est-à-dire que le résultat, le phénomène, c'est que les gens qui vont sur Facebook en croyant aller sur une agora, ils reçoivent ce que soit Facebook, soit des intervenants extérieurs sous forme de robots ou de comptes qui n'existent pas, ont décidé de mettre en masse. Ce qui fait qu'il y a des segments. Par exemple, il y a les segments de l'électorat républicain très sensibilisés à la question des migrants ne recevaient que des informations là-dessus et des incitations là-dessus. De même, les gens qui étaient sensibilisés à la question de la bureaucratie recevaient surtout ça là-dessus. Et ça, c'est des procédés qui sont utilisés maintenant couramment, hein, dans les élections. C'est vraiment de plus en plus documenté. C'est-à-dire que l'agora est en train d'être complètement phagocyté par le système d'intervention. Alors, sur le système d'intervention sur Internet, on en est conscient, hein, il y a des instances, hein, c'est une lutte, hein, mais on n'est pas prêt de prendre
de prendre le contrôle de ça. Les associations qui luttent contre ça, il y en a pas mal, vous pourrez trouver demandent par exemple l'interdiction de l'utilisation des robots pour envoyer des messages. Mais on n'en est pas là aujourd'hui, ce n'est pas du tout interdit. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est le... Bon, la CNIL essaye de renforcer le contrôle du consentement. Du consentement pour l'acceptation des cookies. Mais les cookies, c'est qu'un élément dans... Voilà. Donc, dépossession de soi, oui, oui, oui et oui. Est-ce qu'il faut appeler ça aliénation, si vous voulez? Ça ne me gêne pas. Voilà. Alors, peut-être que oui, finalement, parce que une chose que je découvre en m'intéressant à ça, c'est dans l'idée de l'aliénation, il y a aussi l'idée de fausse conscience. Alors d'un certain côté, moi je suis contre cette idée, parce que quand vous interrogez, vous faites des enquêtes sur l'état de la planète, l'écart entre les riches et les pauvres, l'usage des... Bon, la façon dont on fabrique et on jette des équipements, tout le monde est conscient de ça, donc les gens n'ont pas de fausse conscience. Mais il y a bien une fausse conscience sur ce qui se passe avec les réseaux. Alors juste un exemple, je vais peut-être terminer là-dessus. Il y avait une dame qui représente le, elle était hier sur France Culture, le CSA, et qui disait ce que fait le CSA pour préparer les élections municipales, etc. Et qui, à mon avis, en toute bonne foi, dit, parce que le journaliste posait, il disait oui, mais les réseaux sociaux, comment faire? Là, ça, c'est pour les gens qui les partis qui font de la propagande. Mais qu'est-ce que vous faites avec les réseaux sociaux? Et elle répondait, et je suppose en toute bonne foi, les gens sont libres d'aller voir ce qu'ils veulent sur Internet. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est falsifié. C'est falsifié par une série d'études qui sont faites, par le travail d'une série d'associations qui travaillent là-dessus et qui montrent que ce qu'on va voir sur Internet, c'est diriger, diriger, diriger. On ne va pas voir ce qu'on veut. Donc, il y a bien... Donc là, la notion de fausse conscience, elle s'applique. Et on le sait pas suffisamment, je crois. Là, il y a quelque chose qui... Bon, ça commence à venir. Je pense à une autre chercheuse américaine, qui est une psychologue sociale, qui s'appelle Zuboff, et qui a sorti un livre qui est paru début 2019, et qui s'appelle... Le capitalisme de surveillance. Il est traduit en allemand, il n'est pas encore traduit en français. C'est un livre, bon, c'est un gros livre, un peu trop gros, mais qui est vraiment intéressant. Et Zuboff, je pense qu'elle commence à être un peu connue parce qu'elle a eu des articles dans le monde diplomatique. Elle a écrit des articles. Enfin, on a traduit ses papiers dans le monde diplomatique, dans Esprit. Donc, il commence à y avoir une prise de conscience là-dessus. Mais il y a des choses qui nous échappent. C'est opaque. Donc, voilà. Je suis pas complotiste, hein, vraiment, je suis. J'ai jamais été complotiste, mais en mettant mon nez là-dedans, je découvre des choses très étranges.
Très bien. Donc, merci beaucoup, Patrick Farot. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci.